Je suis de l'ethnie Tutsi. Franchement, ça ne représente pas grand-chose pour moi, sauf que j'ai déjà été victime à cause de ça. Au lieu de regarder ce qu'une personne fait, les gens mettent en avant son identité. Et là, ça me fait mal. Au lieu de voir l'essentiel, les gens se cantonnent sur le superficiel. Pour moi, ce qui est important, ce n'est pas l'identité, mais c'est ce que l'être humain vaut. Il faut voir ce qu'il est capable de faire et ne pas le juger sur base de son identité.
Pi Ntakarutimana, vivre debout.
Une personne qui a participé dans l'assassinat de ma mère, c'est un jeune que j'ai aidé à l'école quand j'étais à l'université avec ma petite bourse. Et je dois te dire que ce garçon m'a écrit une lettre pour me demander pardon. Et la lettre, elle me disait que le contexte était difficile pour lui, que c'était difficile de se désolidariser avec les autres, et beaucoup, beaucoup de choses. Et lui, même maintenant, je pense, il est allé dans la rébellion après, et je pense qu'il n'a pas le cœur tranquille parce qu'il a tué sa maman. Parce que il était un enfant de chez nous, presque. Donc, je pense qu'il souffre au même point que moi. C'était ça, en fait, ce qui était à la base. C'est parce que je peux utiliser le mot acharnement, de mon acharnement à la question des droits de l'homme ici au Burundi.
Aujourd'hui, nous allons rencontrer Pi Ntakarutimana, un militant des droits de l'homme burundais. Ingénieur électromécanicien de formation, Pi n'était pas destiné à s'investir de la sorte dans la défense des droits de l'homme. Mais toute sa famille est assassinée pendant la guerre civile qui ravage le Burundi en 1993. Et au lieu de concevoir des machines dans diverses usines, il se retrouve rapidement à la tête de la Ligue Iteka, la Ligue burundaise des droits de l'homme. Nous sommes allés à sa rencontre à Bujumbura, où il a reconstitué une famille, après avoir recueilli les enfants de ses frères et sœurs disparus, ou même d'autres orphelins.
Et je suis né dans une famille modeste. Alors, j'ai connu une éducation, je dirais, dure du côté de mon père, parce que mon père voulait quelqu'un qui va faire la relève au niveau de son commerce. Et c'est pour cela, en fait, que j'ai connu une éducation, je dirais, vraiment de faire du côté de mon père. Et du côté de ma mère, c'était beaucoup plus la tendresse. Donc, ce qui fait que j'ai connu quand même une éducation équilibrée. Et les frères et sœurs, ils sont 14, parce que mon père a eu des enfants du côté de trois femmes, mais parmi ses frères et sœurs, il y en a qui ne sont pas en vie. En 1972, il y a une crise qui éclate. Et au Burundi, ceux qui étaient au pouvoir à l'époque, c'était des Tutsis. Un coup d'État est organisé par des Hutus burundais. Mais ça n'a pas réussi. Est revenue la répression. Une répression de ceux qui étaient au pouvoir. Et ils ont tué les Hutus, très systématiquement. Et cela s'est généralisé dans tout le pays. Et c'est le début d'une crise profonde. Le début du déchirement social. Parce que les événements qui se sont poursuivis ont été beaucoup plus violents que ces événements de 72. Parce que ces événements de 72 n'ont pas été gérés d'une façon clairvoyante ou d'une façon responsable. On a toujours des frustrations du côté des survivants des victimes qui se manifestent après plusieurs années d'étouffement. Ces frustrations finissent par éclater.
Pi naît en 1961, alors que le Burundi accède violemment à l'indépendance. Les crises successives et larvée que connaît le pays depuis les années 60 vont jalonner son parcours. Il grandit à Gitega, sur une colline au centre du Burundi.
On m'avait orienté à la faculté de polytechnique pour aller faire les mathématiques. C'est là où il y avait des rumeurs, tu vois, au niveau du campus, il y avait des rumeurs, les Tutsis vont être tués. Et là, on a commencé à voir qui était Hutu et qui était Tutsi. Je dois te dire, franchement, qu'il n'y avait pas une préoccupation de savoir qui est Hutu, qui est Tutsi. Même au niveau de tes amis, tu vois, lorsque tu as une université, tu as un groupe d'amis. Vous vous baladez ensemble, vous allez voir l'impôt ensemble, vous allez, comment dirais-je, aller draguer ensemble, et ainsi de suite. Mais le critère d'ethnie n'avait jamais été un critère de base pour choisir ton ami. Mais pendant cette période-là, on a commencé à pointer du doigt qui est Hutu et qui est Tutsi. Ça n'a pas vraiment changé ma façon de voir les choses. Ça ne m'a pas empêché de continuer à avoir des amis de tous les côtés. Mais je savais s'ils étaient Hutu, s'ils étaient Tutsi. Ça, c'est quelque chose qui change et pour la première fois dans ma vie étudiantine. Voilà. La société était divisée au niveau des discours. C'était prévisible qu'il va se produire quelque chose de terrible. Et ce qu'on craignait est arrivé. Et là, le mouvement politique naissant commence dans cet environnement, commence dans ce contexte troublé. Et ce contexte-là se manifeste dans les discours politiques. Des leaders politiques de cette époque, qu'on pouvait qualifier de haine. Et là, j'ai vu comment ce multipartisme commençait dans notre pays, avec une dose ethnique, sans beaucoup d'objectivité. Et là, je me suis dit, je vais à la Ligue burundaise des droits de l'homme. Là, il y a un discours apaisé, il y a un discours rassembleur. Il y a un discours qui construit. Je me retrouvais beaucoup plus dans son milieu. Alors j'ai décidé d'adhérer à la Ligue ITK.
La crise de 1993 éclate à ce moment au Burundi. Elle enflamme alors le pays.
Dans le contexte burundais, c'est en partie à majorité Hutu, à la tête un Hutu qui remporte les élections, et c'est un Hutu qui est porté à la tête du pays pour la première fois dans l'histoire de ce pays. Quelques mois après, ce président est assassiné. Assassiné par l'armée. L'armée, est, à l'époque, qui était à majorité Tutsi, qu'on appelait d'ailleurs une armée mono-ethnique. Et les populations Hutu se rentrent dans la population Tutsi et massacrent la population Tutsi. J'assistais comme tout le monde, impuissant. On se réunissait à la Ligue et on ne savait pas quoi faire. Le pays était en ébullition. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de massacres. On a tué beaucoup, beaucoup de gens. Et franchement, ce qui est arrivé, c'est terrible à ce pays. On m'a appelé à partir de Gitega pour me dire que ton père a été tué et que le cadavre est toujours là et qu'il faut faire tout pour aller et l'enterrer. Mais quand j'étais parti, je ne savais pas si les autres avaient été tués. Je croyais que c'était uniquement mon père. Quand je suis arrivé, c'était un grand étonnement. Moi-même, je ne comprenais pas. C'était la désolation totale. Tout était décimé presque. C'est mon père qui a été tué. Ma mère également. Ma grande sœur et son enfant et son mari. Deux oncles. Des cousins, des tantes. Des maris des tantes. Il y a eu très peu de survivants. C'est une autre vie qui change. En plus que tu perds les membres de ta famille, mais tu perds aussi les repères au niveau familial à la base. C'est vraiment un déracinement total. Une vie qui change brusquement, c'est une page qui est tournée. Et finalement, j'ai compris que l'être humain a plusieurs faces. Et lorsque la face de l'animosité prenne de l'ampleur, il est capable de tout faire, même de l'inimaginable. Il peut se produire aussi, c'est ce qui s'est passé. Et malheureusement, cette crise ne s'arrête pas, il continue à faire des ravages jusqu'à maintenant. Donc les survivants, ils étaient regroupés dans un lycée. Le lycée se trouve en face de chez moi et quelques survivants étaient là. C'est à ce moment-là où on m'a raconté beaucoup de choses, des gens des enfants qui venaient sur moi parce qu'ils n'avaient plus personne que moi à ce moment-là. Et je suis descendu avec eux. Certains avaient même des blessures. Ils avaient eu des coups de machette, des enfants de ma grande sœur, des neveux et des nièces. Et c'est à ce moment-là que je suis revenu avec. Et mon sentiment, c'était un sentiment de refus de comprendre ce qui s'est passé. C'était ça au début. Et Bujumbura est touché. Il y en a commencé à avoir des quartiers des Hutus et des quartiers des Tutsis. Et là, c'était terrible, c'était catastrophique. Pour la première fois dans ma vie, j'ai pensé à quitter le pays. La ville était en ébullition. C'était chaotique. Là, j'étais foutu, j'étais découragé. Je me décourageais très, très rarement. Mais à ce moment-là, j'étais découragé. Je décide de partir, de quitter le pays. Et j'avais eu tous les papiers pour partir me réfugier quelque part en Europe. J'ai eu un sentiment de ne pas partir parce que j'avais ces enfants-là. Je me suis dit, si je pars et que j'ai une belle vie, la sécurité... Et ainsi de suite, je me suis dit que ces enfants-là ne vont pas me pardonner. Et j'ai arrêté, j'ai déchiré les papiers, et j'ai décidé de me marier. Et je me suis marié en 1996. Et là, ils sont tous venus à la maison. Beaucoup de choses vont changer. Et je décide de résister, et de ne pas sombrer, de ne pas... et me laisser emporter par ces violences. Et je décide d'abord d'élever les orphelins, mais aussi d'aider les petits frères de la dernière femme de mon père, qui était encore plus petit. Pour résister, je vais aider ces orphelins à avoir la vie. Et ça veut dire faire des études, avoir une éducation pour les aider à cicatriser un peu des souffrances qu'ils ont connues.
Puis, comment tu te positionnes face à l'assassin de ta maman?
C'est les premiers contacts qui sont difficiles. Parce que moi, je n'ai pas développé en moi les sentiments de vengeance. Mais cela ne veut pas dire que j'ai oublié. Ça fait partie de ma façon de voir les choses, ça fait partie de ma façon d'être, de ma nature. Je ne suis pas quelqu'un de nature violente. Et donc, si je pouvais ne pas le voir, tant mieux. Mais s'il estime nécessaire de me voir, je suis prêt. Et je suis arrivé à un moment où je militais pour la justice des autres et non pour ma justice. Je voyais que c'était difficile que je puisse être rétabli dans mes droits. Je situe l'impunité à plusieurs niveaux. Nous avons un système judiciaire qui n'est pas capable de répondre aux besoins de justice aujourd'hui. Les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas investi dans ce secteur. C'est un système judiciaire qui était considéré comme un des éléments du cause du conflit. Donc, un système qui n'était pas un système inclusif. C'est pas tout le monde qui se croyait à ce système. Un système judiciaire dominé par des Tutsis, donc les Hutus n'y croyaient pas. Donc il fallait attendre la fin du conflit pour réformer ce système. Et comme conséquence, c'est ce phénomène d'impunité qui continue à nourrir le cycle de violence. Parce que on est arrivé à un niveau où tuer était vraiment un acte de bravoure. Cette société est arrivée à une situation où quelqu'un qui tuait beaucoup était la personne qu'il fallait promouvoir. Donc, on a développé des anti-modèles. Tu vois une société qui n'a plus de modèle, qui n'a plus de référence, qui n'a plus de repères normaux que nous connaissons. On est arrivé là. Pendant la crise, il y a eu aussi des adages. Par exemple, il disait, au lieu de te tromper, vaut mieux tuer ton frère. Tu comprends là où on est arrivé. Et en Kirundi, c'est plus profond. Donc, au lieu de te tromper sur ta cible, vaut mieux tuer ton frère. Il faut que les gens qui ont commis les crimes puissent s'inquiéter. Pas peut-être demander trop qu'ils puissent aller tous en prison, c'est fait réaliste, mais s'inquiéter quand même, pour qu'eux-mêmes trouvent qu'ils ont fait des choses qui ne sont pas acceptables, des choses qui ne sont pas faisables, qu'ils ont posé des actes inhumains, des interdits. Et ça, c'est important. Les gens sont morts dans un contexte où il y en a qui trouvent normal. Il y en a même qui tentent d'expliquer ça. Des choses inexplicables. Pourquoi ? Parce que, à mon avis, tu ne peux pas expliquer pourquoi tu élimines, tu effaces la vie d'une personne. Comment tu organises l'élimination systématique des gens. Tu ne peux pas expliquer, pour moi, il n'y a pas de raison. Donc, la reconnaissance, pour moi, de ça, c'est une forme de justice. Et que ce soit les victimes de maintenant, les victimes de 93 et les victimes de 72, les familles n'ont pas eu le temps, pas eu des cadres, des occasions pour enterrer l'erreur, et finalement pour le faire le deuil. Donc nous vivons une période de ce qu'on appelle un deuil inachevé, et ce qui est inachevé peut revenir d'un mal à l'autre.
Pi s'engage pleinement dans la défense des droits de l'homme. Il est difficile de citer toutes les associations nationales et internationales avec lesquelles il a travaillé. Il crée, en quelques années, un réseau au sein de ce qu'il appelle une société civile en survie. Véritable carrefour entre les jeunes, les rebelles, les victimes, les hommes politiques, les institutions internationales, les petites associations locales, Pi devient un acteur incontournable de la cité burundaise.
C'était le moment de faire à notre discours. Faire découvrir aux gens que là où vivent les hommes, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des conflits. Et que dans une société, dans une communauté, les conflits font avancer les choses. Les changements se produisent sur la base des conflits. Et que ces conflits-là, comme c'est une composante de la vie communautaire, il faut faire en sorte que dans la gestion de ces conflits-là, il n'y ait pas de violence. Et développer d'autres attitudes, d'autres comportements qu'on peut prendre individuellement, qu'on peut prendre collectivement. Parce que la violence, au lieu de résoudre les problèmes, il les crée et il détruit l'homme, l'être humain. Il y a une phrase qui se trouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que tous les êtres humains sont égaux. Moi, je dis, non seulement ils sont égaux, ils sont les mêmes. Nous avons une même famille. C'est la famille des êtres humains. Et cette famille des êtres humains devait être solidaire. Ne pas rester inconscient. Ne pas rester amorphe. Parce que il y a des gens qui souffrent. Aujourd'hui, par exemple, il est impensable qu'on voit des gens qui meurent de faim au XXIe siècle. C'est inacceptable. Je pense qu'on devrait bâtir une société mondiale réellement des êtres humains. Une société où il y a des interdits, parce que tout n'est pas permis. On ne peut pas accepter qu'il y ait des gens qui meurent tués, qu'il y ait des gens qui tuent les autres. Il faut refuser ça. On ne peut pas accepter qu'il y ait des gens qui planifient l'extermination des autres. Parce que moi, je me dis, si une personne est tuée au Burundi, c'est toute la société humaine qui en perd. Je rêve, mais c'est ça, je crois.
C'était Pi Ntakarutimana, Vivre debout. Une série d'émissions proposées et produites par RCN Justice et Démocratie. Réalisée par Pascaline Adamantidis. Mixée par Olivier Rutten. Sur une musique de Daniel Stockard. Cette série d'émissions a été réalisée avec les soutiens du ministère fédéral des Affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement en Belgique et l'Union européenne.